Bonsoir à tous. Donc du coup, on se retrouve là ce soir pour la dernière intervention qui a pour titre, je l'ai même oublié, enfin, en tout cas on est censé vous parler des imposteurs et des normes opaques sur une forme de vraisemblable et de faux semblant. On avait souhaité pouvoir faire ce jeu de mots, pour ainsi dire, qui tend à souligner, je dirais, les ressemblances, les analogies, les points de liaison entre ces deux figures qu'on pourrait appeler des figures du ces types de caractères que peuvent être en psychopathologie les imposteurs et les normopathes. Voilà, donc du coup on va vous proposer de reprendre à partir de la psychologie des imposteurs qu'on avait évoqué la dernière fois, pour aller vers ce type de caractère, s'il en est, des normopathes. À savoir que, comme on le verra, le normopathe est à la fois une antithèse de la pathologie, et puis pour autant il peut souffrir.
Parlons de souffrir, enfin, je le redis parce qu'on l'avait déjà évoqué la dernière fois. Penser ces questions-là, quand même, de l'imposture et de la normopathie, ça met en face quand même de deux choses. La première, c'est l'impossibilité de penser ces situations-là. Parce que derrière, comme on l'avait évoqué, c'est pas que la ruine, mais c'est surtout aussi le néant, le vide. Et puis, deuxièmement, difficile aussi à penser pour nous, parce que ça nous renvoie à notre propre partie d'imposteur, propre partie normopathique. Tout à l'heure, on essaiera de faire on va essayer de cheminer avec Jean-Baptiste sur qu'est-ce qui peut déjà articuler la question de l'imposture et la normopathie. Moi, j'avais envie de proposer, mais on essaiera de déconstruire ce modèle, c'est que peut-être l'imposteur, c'est le négatif du normopathe. Alors, on verra ce modèle, on va partir de ça, puis on va essayer de déconstruire un petit peu. Moi, j'ai beaucoup aimé les échanges qu'on a pu avoir en deuxième heure, parce qu'il y a des choses qui me paraissaient, qui se sont révélées pour moi sur la question des imposteurs. Parce qu'on s'est aperçu, en parlant de Madoff par exemple, qu'il pouvait avoir des imposteurs normopathes, hein, c'est-à-dire une forme d'imposture qui sont tolérées socialement. Hein. C'est déjà, pour reprendre les critères de différenciation entre les typologies d'imposteurs, il y aurait les imposteurs qui sont tolérés socialement et ceux qui sont soit pénalement punis, soit psychiatrisés. On en rencontre beaucoup, hein, c'est ce qu'on appelle la mythomanie. Je vous rappelle que la mythomanie est considérée comme une maladie mentale. Hein, enfin, elle fait partie de cette
du trouble,
un trouble psychiatrique qui fait partie du DSM-4, qui est la Bible des pathologies mentales répertoriées. Sauf que, comme on a pu le dire la semaine dernière, le mythomane, très rapidement, se fait... la supercherie du mythomane se fait vite dévoiler. Hein. L'autre forme de... Ce qui me semblait, moi... Il y avait l'imposteur... normopathe, et puis l'imposteur hors norme. On avait évoqué ces trois figures, celle de Philippe Bert, celle de Christophe Rocancourt et de Jean-Claude Roman. Il semble quand même que chez ces personnages-là, il y a une science de l'autre, hein, c'est-à-dire une science de ce que l'autre peut attendre. Moi, je crois qu'on n'avait pas évoqué, mais Christophe Rocancourt, par exemple, pour appuyer ses impostures, parce qu'il s'est fait passer pour le fils de Dino de Laurentiis, hein, qui est Dino De Laurentiis, qui est un producteur hollywoodien, il est quand même allé explorer la bibliographie de Dino De Laurentiis en s'apercevant qu'il y avait un vide dans son histoire à Dino De Laurentiis. Donc il s'est fait passer pour le fils de Dino De Laurentiis. Donc il y a quand même une science et une certaine intelligence.
Intelligence non dégagée de la question de la mégalomanie. Hein, si on m'apprenait récemment qu'il a quand même prénommé son fils Zeus, hein, c'est pas anodin.
C'est une science de l'autre et puis une science des failles dans l'autre. Hein. En le rappelant, Christophe Rocancourt, c'est quand même a fait de ces proies des personnages très vulnérables. La dernière personne en date, il s'agit de Catherine Breillat, qui est réalisatrice, et elle était assez fascinée par ce personnage et comptait lui proposer un rôle dans son prochain film avec Naomi Campbell. Sauf que quelques mois auparavant, Catherine Breillat a eu un AVC. C'était quelqu'un d'extrêmement diminué, et finalement c'est devenu une proie pour Christophe Concourt. Enfin, je tenais à souligner cette capacité à pouvoir explorer le monde de l'autre. Hein. Mais il n'y a pas d'aller-retour, c'est-à-dire il n'y a pas de retour dans son propre lieu. Hein. Les imposteurs hors normes, ce sont des grands illusionnistes. Hein. Ils ont cette tendance à pouvoir créer ce qu'on pourrait appeler une hallucination à deux. Ça, c'est un vieux terme de psychiatrie française, des aliénistes. C'est des délires à deux. Enfin,
oui, le terme ancien, c'est délire à deux. Et le terme d'hallucination à deux, il est amené par Christopher Bolas dans ses écrits sur ce qu'il va appeler la maladie, la normose, on pourrait traduire, en tout cas, normotic illness.
La science de l'imposteur, c'est sa capacité à pouvoir construire pour un autre ou plus d'un autre un réel et en structurer le sens. Il a une capacité à mystifier l'autre. Et en même temps qu'il mystifie l'autre, il se mystifie lui-même. Je me souviens que l'année dernière, l'un des titres possibles de l'Université populaire pour cette année, c'était la mystification. La mystification, dans le champ de la psychanalyse, c'est quand même d'être en capacité de pouvoir brouiller les limites entre soi et l'autre chez celui qu'on a en face. C'est cette capacité à pouvoir dire que ce qu'il ne ressent, c'est pas ce qu'il ressent. Le processus mystificateur, c'est ça. La capacité à pouvoir dire aussi que ce que vous désirez, c'est moi qui le décide. Hein, ça, on pourrait parler aussi de ce processus mystificateur au niveau des publicités, des choses comme ça. Mais l'une des puissances de l'imposteur, c'est de pouvoir créer cette illusion-là. Hein. Finalement, ça rappelle, et on en revient toujours à ce modèle un peu paradigmatique, hein, qui est celui du bébé, c'est-à-dire que le bébé, dans les yeux de sa maman, il se voit, hein, et puis avec la complicité de sa maman, le bébé va être dans une forme de capacité à pouvoir créer son monde. Hein. C'est-à-dire que le bébé il doit être suffisamment nourri dans son omnipotence, pour pouvoir se créer son propre univers, et ça avec la complicité maternelle. On s'aperçoit que dans ces phénomènes d'hallucination à deux, il est un peu question aussi de ces interactions très très précoces. Pour en revenir sur la question de l'imposture, on avait dit que l'imposture et le mensonge avaient partie liée. Le mensonge, quand on regarde un petit peu le parcours de ces personnages, il est une défense extrêmement puissante. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi définir le mensonge comme une espèce de barrière protectrice face à un contact qui pourrait être intrusif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour ce projet de se protéger du rapport à l'autre, l'imposteur va créer un mensonge pour créer une espèce de bouclier et protéger un espèce de noyau de vérité. Comme si ce noyau de vérité était finalement d'une fragilité extrême. C'est-à-dire que le mensonge finalement protège contre un contact vécu comme très intrusif. Il maintient une certaine distance à l'autre. Je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à imaginer, mais en créant une espèce de voile comme ça, en travestissant la vérité, ça permet de protéger. C'est comme une forme de bouclier. On peut imaginer que l'addiction au mensonge, qu'on retrouve chez des personnages comme Philippe Bert et Christophe Rocancourt, n'ont d'autre enjeu que de protéger une certaine vérité, qui serait celle de qu'on pourrait dire je n'existe pas. La vérité qui sont donc parfois sous-tend l'usage intempestif du mensonge, ce serait de protéger un espèce de néant existentiel. Le mensonge va devenir une seconde peau hein, chez la question des imposteurs. Pour essayer de faire un peu le lien entre la question de l'imposture et la question de la normopathie, on pourrait dire que Jean-Claude Roman, dans son apparence, était un normopathe accompli. Pendant plus de 20 ans, il a fait croire à tout son entourage qu'il avait un travail, pas n'importe quel travail, il était médecin à l'OMS. Il avait une petite maison, deux enfants, une vie relativement stable. Alors déjà, quand moi je vous disais que l'imposture était peut-être le négatif de la normopathie, on s'aperçoit que l'un n'exclut pas forcément l'autre. Puis quand je repense aux échanges qu'on a eus la semaine dernière, on s'aperçoit que il y a des imposteurs plutôt bien intégrés socialement, donc suffisamment normopathes. Je ne sais pas peut-être que la teneur du mensonge finalement de Jean-Claude Roman s'est fait passer pour un normopathe accompli, hein, c'est-à-dire de pouvoir s'inscrire dans une norme sociale majoritaire. Et le maintien de son mensonge était à ce prix-là, c'est-à-dire se faire passer pour Monsieur Tout-le-Monde, pour quelqu'un finalement tout à fait normal. Mais tu as rajouté quelque chose, Jean-Baptiste ?
Pas forcément sur Roman.
Alors, pour tenter de définir un petit peu ces questions de la normopathie, c'est un critère qu'on retrouve pas nécessairement dans les catégories psychiatriques. Hein. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de la nosographie psychiatrique. Il n'y a pas tant d'écrits que ça. Hein. Jean-Baptiste, en faisant un petit peu nos recherches, il y a eu une revue française de psychanalyse dont la thématique était la question de la normalité, avec quelques articles intéressants, et on s'est aperçu que finalement, il n'existe pas de définition claire de ce que c'est que la normopathie. La normopathie est toujours définie en négatif, c'est-à-dire ce que ça n'est pas. Hein. Pour avoir travaillé ensemble l'article de Joyce McDougall, que vous pouvez trouver, je pense, sur Gallica, qui s'appelle « Plaidoyer pour une certaine anormalité ». Elle dit très bien que, finalement, les normopathes, on ne les reçoit pas en analyse. Hein. Un peu, d'ailleurs, comme André Baudouin qui dit que les imposteurs, on ne les rencontre jamais. Hein. Ce sont des personnages tellement hors normes, les imposteurs, que se mettre sur un divan, c'est quelque chose qui ne peut exister. Chez les normopathes, on a à peu près la même situation. C'est-à-dire que peut-être que l'un des principes du normopathe, c'est d'évacuer toute la question. D'évacuer toute trace de souffrance psychique.
Oui, la normopathie, quand même, pour le préciser, on voit bien, du point de vue étymologique, que ça renvoie à quelque chose assez paradoxal dans le sens où effectivement ça dit quelque chose de la norme et ça voudrait dire quelque chose du pathos, du pathique, hein, d'une forme de trouble dans le langage médical ou psychanalytique. La question de la normopathie, c'est pas la question de la normalité uniquement. Je crois que il a été développé la question du normal et du pathologique de longue date par les philosophes classiques. Plus tard par Canguilhem, Foucault s'est aussi intéressé à la question. McDougall, dans son article nommé « Plaidoyer pour une certaine anormalité », vient quand même nous interroger en évoquant « Est-ce que la psychanalyse a quelque chose à dire, aurait quoi que ce soit à dire sur le champ du normal, attendu que finalement les personnes que les analystes ou les thérapeutes rencontrent sensiblement, sont en situation d'être troublés, de souffrir de troubles, et de fait, c'est rarement des gens qui vont bien qui vont consulter. Je crois que c'est une première question assez intéressante, et qui renvoie aussi à la suivante, est-ce que les analystes sont des gens normaux ? C'est une question que McDougall évoque, et c'est vrai que pour penser ça, moi j'avais repensé à une phrase de Winnicott par rapport à ça,
où il dit quand même que le gros problème pour être analyste, c'est qu'il faut avoir été analysé. Et on va quand même rarement se faire analyser plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs années, si à la base on est véritablement dégagé de tout trouble ou toute souffrance. Hein. Il dit comme ça, il serait préférable que ce métier fût exercé par une personne réellement capable, plutôt que par un malade rendu moins malade par la cure, qui fait partie de la formation analytique. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'intéressant voilà, à pointer ici, en entendant que finalement, ce métier est quand même exercé par des gens malades. Donc est-ce que... mais des gens malades rendus moins malades hein, par un voyage, une traversée intérieure qu'est l'expérience psychanalytique personnelle. Alors si effectivement vous n'êtes pas trop aux prises avec la question de la psychanalyse, ça peut vous paraître assez, assez inquiétant ce que je vous raconte, mais malgré tout, il en est ainsi, si on veut essayer de pouvoir saisir au plus près ce que les patients vivent du point de vue de leur réalité interne, je crois qu'il y a, quand même cette nécessité de pouvoir recourir à ces, je dirais, nos propres mouvements internes à nous, et que la seule façon d'y accéder, somme toute, reste une expérience analytique personnelle. Voilà. Par rapport à ça, effectivement, McDougall nous invite un petit peu à penser la. Il y a la face obscure de la lune, hein, tant chez les patients que chez les analysants. Mathieu.
Ce que McDougall finalement décrit sous ces formes quand même de normopathie, je sais ça d'ailleurs, comment, sans en avoir eu sur le vivant, elle peut amener de telles hypothèses. Mais, on parlera sûrement du modèle de ce qu'elle appelle l'anti-analysant. Mais dire comme des patients normopathes, on présente des troubles assez particuliers, c'est-à-dire des risques de. Des décompensations psychosomatiques très graves. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire des déclenchements de cancer. Et puis, oui, des cancers, je ne sais plus comment ça s'appelle, les douleurs, la fibromyalgie par exemple, des choses comme ça, des douleurs finalement somatiques très difficilement explicables par la médecine somatique. Et puis, une situation de normopathe, elle dit aussi que ça potentialise les conduites addictives, que ce soit alcoolisme, que ce soit cannabique, tabagique, etc., etc. Mais sûrement des conduites qui sont cachées, dissimulées dans l'espace de l'intimité. Voilà. Elle dit bien que chez ce patient-là, il y a ce qu'on pourrait appeler une pensée opératoire. C'est-à-dire c'est une espèce de pensée complètement désaffectivée. Une pensée sans relief, sans profondeur, voilà. Où l'idée du conformisme est prégnante. Hein. L'idée, c'est d'être conforme, hein, d'être collé complètement aux normes sociales. Alors, là, j'imagine que déjà, chacun dans votre tête, vous imaginez à droite, à gauche, des profils comme ça. Voilà.
Ou en face.
Ou en face. Ce que Jean-Baptiste dit, finalement, c'est que, pour définir encore une fois en négatif cette question de la normopathie, ce que ne serait pas la normopathie, c'est la reconnaissance d'une certaine anormalité, une anormalité essentielle, c'est-à-dire certaines aspérités, certaines capacités à pouvoir être en souffrance parfois, ce que le normopathe, a priori, n'est pas. Être en capacité d'être en souffrance et de pouvoir dépasser ces situations de souffrance. Quelqu'un qui ne souffrirait pas suffisamment, ou pas ses conflits, où sont ses conflits psychiques. Donc il entretiendrait, selon Joyce McDougall, des rapports très particuliers aux objets, des objets qui seraient addictifs et autocalmants. Ça, c'est une hypothèse qui est faite plaidoyer pour une certaine anormalité, c'est.
Je sais pas si antérieur, je sais pas. Je te retrouve.
En tout cas, on est au niveau des années 90. Hein. Elle va réviser un petit peu ces théories quelques années plus tard en disant que finalement, on arbore tous un potentiel normopathique. Alors, on va essayer de revenir un petit peu sur cette question-là, hein, mais Et ce qui nous permet un petit peu d'échapper au mortifère que comporte la neuropathie, c'est la capacité à pouvoir échapper parfois à ces stratégies de survie qui sont des stratégies psychosomatiques ou addictives. On a tous des petites addictions. Le tabac, par exemple, hein, je peux vous dire que c'est compliqué d'arrêter de fumer. On imagine bien aussi le verre de whisky du banquier en rentrant chez lui, parce que peut-être qu'avant d'aller travailler dans un organisme humanitaire, peut-être en envoyer un, ou le chocolat, ou des choses comme ça. Pour reprendre.
Si, peut-être de dire que si le normopathe, si effectivement il y a quelque chose à quoi il n'est pas forcément addict, c'est aux relations humaines authentiques. C'est-à-dire que je suis en train de penser à la question de la prise de plaisir dans l'addiction, et sensiblement, il y a quand même cette question du gel de l'affect qui se retrouve dans ces personnalités. Ça, c'est en prenant appui sur ce que McDougall évoque dans l'anti-analysant en analyse, qui est un autre article qui est paru en 72 antérieurement. Donc du coup, et au normotiquiness développé, au modèle développé par Bolas, par Christopher Bolas, où là on s'aperçoit quand même qu'il s'agit d'individus qui fonctionnent comme des robots, de façon un peu automatique, en tout cas dans la situation analytique, c'est-à-dire que sur le champ de l'extériorité, on n'y a pas forcément accès, où il n'y a pas forcément de souffrance donner à entendre, des causalités qui sont sans cesse établies entre les choses, et le patient déroule son discours un petit peu trop bien, de façon suffisamment organisée, et avec, malgré tout, une dimension qui va venir la surprendre, tout comme ça va surprendre Hélène Deutsch quand elle parle des personnalités agives, c'est de dire, au bout d'un certain nombre de temps passé en thérapie, leur remarque, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Tous les analystes qui ont travaillé avec ce type de questions se disent, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à en voir l'achèvement possible de cette thérapie, de ce soin? Et sensiblement, c'est bien que les choses sont en peine à se conflictualiser.
Moi, il me vient en tête une situation, j'en dirais peu sur l'histoire, sur l'analyse, mais c'est un petit peu la question de ces patients qu'on peut rencontrer qui sont des bons patients. C'est-à-dire, on a l'impression que tout est bon à entendre pour le thérapeute, mais finalement, le temps faisant, on s'aperçoit que rien n'avance, les troubles sont toujours là. La question de la souffrance, on se demande si parfois elle est là. Et à un moment donné, on a toujours besoin de tiers hein, quand on est thérapeute, c'est-à-dire on fait appel aux collègues pour dire j'éprouve de gros problèmes dans cette situation. Et c'est vrai que souvent, ce qui nous est ramené, c'est mais où est la souffrance chez ces patients-là? Ils nous présentent des troubles de manière très factuelle, mais ne semblent pas du tout en souffrir. Donc on est déjà dans une dimension de l'ordre du pseudo, hein, ce que Jean-Baptiste pourrait définir avec les personnalités qu'on dit as if, c'est-à-dire comme si, c'est des personnalités pseudo. Et quelque chose, on revient là sur cette question de l'imposteur, sur la question de la facticité, du faux. Et là, il y a un concept qui est quand même très intéressant, qu'on a déjà abordé la semaine dernière, c'est la question de ce que Donald Winnicott appelait le faux self. Alors, loin de nous l'idée de dire que le faux self, c'est on est du côté du pathologique, hein, on peut imaginer que. Non, voire même, c'est plutôt ordinaire ou normal. Hein. Le faux self, c'est cette capacité adaptative, c'est-à-dire la capacité à pouvoir se conformer, se soumettre à certaines formes d'interdit. Imaginons hein, si chacun de nous faisait à peu près ce qu'il voulait, ce serait encore une fois l'anarchie, c'est-à-dire qu'on est tous un peu contraints à se soumettre à des interdits, c'est ce qui fait un peu la paix sociale, c'est-à-dire ce que Freud disait dans Malaise dans la civilisation, c'est-à-dire sacrifier une partie de notre liberté pour acquérir une base de sécurité. Hein, c'est ce qui permet de vivre en groupe. Donc le faux self, c'est ça, c'est cette capacité à pouvoir se conformer suffisamment bien, pas trop. On rejoint la question du faux self chez l'imposteur. Alors que chez l'imposteur, quand même, il y a cette idée qu'il transgresse les interdits. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait une science de l'autre, mais il a aussi une science des institutions, de l'imposteur, et des failles surtout de l'institution. Philippe Bert, par exemple, il savait très bien qu'avec un carnet d'entreprise en tête qu'il avait dérobé sur un site de travail, il allait pouvoir louer des engins, louer du matériel sans que rien ne lui soit demandé, puisque c'est des bordereaux, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'avancer aucun frais. Et puis, Christophe Rocancourt, lui, il avait une science très exacte de l'institution de Jet-Set. Il savait comment ça marchait. Le normopathe, lui, il se conforme finalement à la question des normes que produisent les institutions. Enfin, je ne sais pas si c'est véritablement une science ou une forme d'intelligence, ou c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'une peur terrible. Hein. Il y a l'idée, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, que chez le normopathe, peut-être revenir sur la question du faux self, il y a l'idée quand même d'une angoisse très particulière, c'est l'angoisse du pathologique chez le normopathe. Finalement, c'est notre condition à tous d'homme normal. Quoi. Il y a aujourd'hui, dans l'air du temps, une véritable angoisse du pathologique. C'est très angoissant d'être malade. Être malade, c'est aussi un grand facteur d'exclusion. Et chez le modèle de l'homme normal, il y a cette idée quand même d'évacuer toute trace du pathologique. Et s'il y a une trace d'angoisse chez le normopathe, c'est ça. C'est-à-dire c'est évacuer toute potentialité de souffrance psychique et surtout de l'ordre de la pathologie. C'est ce que d'ailleurs montré Georges Canguilhem dans son livre qui s'appelle « Normal et pathologique », qui est un essai sur la question du médical, et où il va réfléchir sur les questions de la norme, de la normalité et du normal. Hein. Pour en revenir sur ces questions du faux self, qu'est-ce qui différencie finalement le commun du mortel que du normopathe? Et là, c'est finalement que peut-être le normopathe s'inscrit tout le temps en faux, tout le temps en collage extrême à ce qui est attendu au niveau des normes sociales. Et que juste le fait de ne plus être dans les normes, c'est ça qui précipite peut-être des angoisses qui vont amener à des accidents type psychosomatique ou des choses comme ça. Alors l'adhésion totale aux normes sociales, cette capacité, mais cette tendance à évacuer toute trace de vie psychique. C'est-à-dire que le normopathe sacrifie sa vie psychique au profit de la vie des normes. Enfin, s'il est inscrit en faux-self, il est inscrit à ce niveau-là. Où est l'authenticité, finalement, dans le comportement du normopathe? Pour essayer de tu veux parler
du faux self, hein, du faux self. On parle de ça. Oui, non, effectivement, on parle du faux self, mais je ne sais pas si c'est une dimension qui vous parle. Déjà, avant de parler du faux self, il faudrait savoir ce que c'est que le vrai. Hein. En écoutant Mathieu, effectivement, cette dimension de l'homme normal. L'homme normal, c'est quelque chose de terriblement séduisant pour nous thérapeutes, mais aussi pour qui que ce soit. Hein. L'idée de pouvoir se dire qu'on s'est dégagé toute souffrance. Je suis en train de me dire, tu voudrais dire d'être sans addiction. Et parfois, on peut imaginer que certains individus dans la société contemporaine pourraient être comme ça, dégagés de tout trouble ou toute pathologie. On s'aperçoit bien que même les hommes politiques sans vie sexuelle, ça n'existe pas. Ceci étant dit, on peut... voilà, je vais vous amener deux, trois éléments sur le self. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que le self? La question avait été soulevée la dernière fois. Winnicott développe cette idée très précocement dans ses travaux, dès 1949, vraiment dans ses tout premiers écrits.
Et il va n'avoir de cesse que de, je dirais, que de le reprendre, de le remanier, à tel point que ça nous conduit à une notion relativement obscure, dans le sens où parfois il utilise à l'identique du terme de psyché ou du terme de moi. Donc on voit bien comment on est soit amené à penser la question du self comme une entité topique, hein, donc du coup qui circonscrirait quelque chose d'un espace, d'une partie de la psyché, ou alors, quand il en parle en tant que psyché, dans quelque chose d'englobant, hein, qui serait l'ensemble du fonctionnement psychique de l'individu. Le self, j'ai souvent tendance à le penser comme la partie qui constitue l'identité du sujet, plus son moi corporel et l'ensemble de ses expériences vécues. Winnicott ne dit pas vraiment comme ça, lui il dit il s'agit de la recollection de l'ensemble des choses que l'enfant a eu expérienciées dans sa vie. L'ensemble des expériences que fait le nourrisson sont recollectées dans quelque chose qu'il appelle self. Mais voilà, il n'en donne pas bien plus de définition en tant que tel. Il en parle beaucoup, mais il ne le définit pas tant que ça. C'est là où c'est un petit peu compliqué de pouvoir le penser. Ça prend appui sur son postulat assez classique qui est de dire que tout se jouerait dans la relation primaire mère-bébé. Et on retrouve ici, la dernière fois quand on évoquait la dimension de ces êtres en ruine derrière la façade, soit des êtres en ruine, soit des êtres où finalement il n'y a même plus de ruine et il n'y a plus de la moindre trace identitaire. Winnicott développe bien ce modèle au niveau de la constitution du self, de l'idée soit d'un modèle par carence, soit d'un modèle par effet de séduction, en disant un nourrisson est né, sa mère s'en occupe. Si elle s'en occupe pas suffisamment bien, en tant que mère objet et mère environnement, comme il le dirait, si elle s'en occupe pas suffisamment bien, à tel point que finalement le bébé ne voit pas ses fonctions vitales premières remplies, le bébé meurt. Et c'est un peu ce qui se passe. Une mère s'occupe pas suffisamment bien de son bébé, le bébé meurt, mais dans la réalité, il ne meurt pas. Il continue à vivre et il est obligé de devoir continuer à vivre en ayant eu à rencontrer cette expérience d'une forme de mort relationnelle, hein, peu alimentée par la vie psychique, on pourrait dire, de ses parents. La deuxième hypothèse qu'il émet du point de vue de l'origine, d'un trouble de la constitution du self, la deuxième hypothèse serait plutôt celle de la séduction, qui serait une maman s'occupe d'un enfant, elle s'en occupe sans suffisamment prendre en compte les besoins de son enfant. Là, pas forcément du côté uniquement des besoins psychiques, aussi du côté des besoins de sa réalité, d'autoconservation. Et du coup, le bébé se voit, le nourrisson se voit imposer des besoins qui ne sont pas les siens, des désirs qui ne sont pas les siens, et le bébé se voit être contraint à se soumettre à des expériences émotionnelles qu'il n'a pas forcément désirées. Ces deux effets, ces deux hypothèses vont avoir pour effet, selon Winnicott, de fragiliser dès la première enfance la constitution du self. Ce self, donc, qui serait l'idée d'une forme d'identité globalisante qui inclut la dimension somatopsychique du sujet, hein, et l'ensemble de ses expériences telles qu'elles se sont inscrites. On peut penser le self comme quelque chose d'un noyau, d'une base identitaire première qui fait que le sujet se sent est vivant et se sent être vivant, et que l'expérience de se sentir vivant est réelle. L'individu se sent comme réel. C'est à peu près comme ça qu'il définit le vrai self, en disant le vrai self, c'est quand l'individu est vivant et se sent réel. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, je crois, enfin, de toujours se sentir vivant ou de se sentir réel. On voit que dans les cas de troubles psychopathologiques massifs, le sentiment de déréalité ou de dépersonnalisation voilà, vient effectivement bouleverser ce fondement premier. Voilà pour ce qui est du self. Alors après, je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour que vous puissiez vous représenter ce à quoi ça correspond. L'idée étant que le faux self, ce serait quelque chose, non pas qui s'oppose, mais qui se surajoute pour faire en sorte de préserver ce noyau au fond de soi qui fait qu'on se sent vivant et réel, et qu'on se sent authentique. Ça ne peut pas fonctionner comme ça à nu. C'est, on pourrait dire, une forme de joyau rare. Et pour pouvoir faire face aux expériences de frustration, de limitation, de manque, de carence auxquelles on a à faire face dans la réalité, tout au long de notre vie, l'individu, nourrisson, enfant, adolescent, adulte, va développer une forme de protection, de voile, qui est secondaire par rapport à la constitution de l'identité et qui lui est pour une part contingent et qui a pour but de protéger cette dimension ultra vulnérable du sujet. Ce voile, il prend la forme qu'on avait évoquée à différentes reprises et sous différentes formes la dernière fois, d'une adaptation des conduites aussi en fonction des expériences qui sont données à être vécues. Adaptation des conduites, comme on disait simplement et trivialement, on n'est pas le même quand on est au travail et quand on est chez soi, on n'est pas le même quand on est à la plage que quand on est dans un train bondé, enfin voilà. En fonction des situations, on est amené à modifier des aspects relationnels en fonction des personnes que l'on rencontre, effectivement. Si on rencontre une femme de chambre, on ne se tient pas de la même façon que si on rencontre un homme d'État. Et du coup, ça amène une polysémie, une hypercomplexité, une pluralité de la personnalité. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose?
Pour revenir sur ces questions de normopathie, finalement, pour la définir dans la continuité de ce que vient de dire Jean-Baptiste, c'est finalement une surenchère d'adaptation à l'environnement, au défaut de ce que pourrait être quelque chose de beaucoup plus authentique. Ce qui pourrait définir finalement une personnalité de type normopathique, ce serait une forme d'inauthenticité. Quelqu'un qui est très exactement là où on l'attend, sans surprise, sans étonnement. Hein. Et quand je dis surprise, c'est vraiment au sens fort du terme. Hein. La capacité à pouvoir se faire surprendre, c'est une capacité qui est extrêmement importante, qui est très rare aussi. J'en parle sur cette question de normopathe, c'est celui qui n'est plus jamais surpris, qui ne surprend pas les autres. Hein. Jean-Baptiste aime beaucoup Winnicott, moi j'aime beaucoup Henri Malvinet, qui est un philosophe qui dit que finalement nous sommes au sens d'être constamment, nous sommes constamment, mais nous existons que rarement. Il dit que l'existence, les moments d'existence sont extrêmement rares. Juste un exemple. Les moments d'existence, on peut les vivre et en être complètement enveloppé à l'occasion d'une rencontre avec une œuvre d'art. Les véritables œuvres d'art. Henri Malvinet, il parle beaucoup, par exemple, de Cézanne, sa rencontre avec l'œuvre de Cézanne. Dans ces moments-là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la surprise. Se surprendre à être, hein, se surprendre à exister, se surprendre à se découvrir soi-même dans... je ne sais pas qu'on pourrait dire, mais l'inconnaissable de soi, l'inconnu inconnaissable de soi. Le normopathe, on pourrait en définir les frontières, une cartographie très précise. Il est enfermé dans une espèce de capsule, de patron prédéfini par le social. Hein. Le normopathe, c'est celui qui ne se laisse toucher par rien, même pas par une œuvre d'art. Finalement, pour en continuer un petit peu sur la question de la surprise, Henri Madinet, par exemple, il dit que les psychotiques sont authentiquement, ils existent de manière authentique, mais en détresse, sans cesse. Hein. Donc le normopathe, c'est un peu finalement la normopathie, on va dire, parce que c'est plus une carapace, hein, une carapace pour un être en souffrance de forme, qui ne lui permettra pas forcément d'être dans la rencontre. Parce que dans la véritable rencontre, il y a toujours cette dimension de la surprise. On conçoit tous hein, dans ce que c'est que la rencontre amoureuse, par exemple. Hein. On se surprend à être différemment. On peut même se demander si le normopathe, un jour, il tombe amoureux. Hein. Alors, à ce niveau de la réflexion de Jean-Baptiste, moi, je me disais ici, finalement, le normopathe, un normopathe, ça n'existait pas. Puisque MacDougall propose l'hypothèse que un normopathe, ce serait ceci, ce serait cela, mais elle n'en a jamais véritablement rencontré. Quelques années plus tard, dans son livre qui s'appelle Eros, au mille et un visages, petite parenthèse, je vous invite vraiment, hein, si vous voulez découvrir un petit peu ce que c'est que la psychanalyse, les livres de Doris MacDougall, ils sont 5. Hein. Il y a Plaidoyer pour une certaine anormalité, il y a le théâtre du jeu, hein, J-E, le théâtre du corps, et puis Eros, on met un visage, puis un dernier qui est plus une étude de cas clinique. Dans Eros, on met un visage, elle dit finalement qu'on arbore tous un potentiel normopathique. Alors quand on lit ça, on est un peu choqué. Parce qu'on se dit finalement on n'est pas protégé d'accidents psychosomatiques, on n'est pas à l'abri de l'addiction. Voilà. Sauf que peut-être aussi ce qu'elle dit, c'est que on n'est pas tout le temps dans cette carapace-là. Finalement, alors je rejoins un peu tout ce que Jean-Baptiste vient d'élaborer autour du FOSF. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi être en capacité de suffisamment se normer pour vivre en collectivité. Pour vivre avec les autres. Parce que si on n'a pas ce potentiel normatique, on peut imaginer que ça marginalise.
Du coup, je n'ai pas élaboré grand-chose par rapport au self. Enfin, quand même pour dire, alors on pourrait en parler pendant juste le temps d'une intervention, effectivement, peut-être la complexité de cette notion de vrai self et de faux self réside en cela que finalement le faux self, et je crois que c'est quand même important de le préciser pour la suite de l'échange, a une fonction de protection et relève du normal. Hein. C'est-à-dire que ce qui fait souffrir, c'est jamais ou le vrai self ou le faux self. Hein. Il ne s'agit pas de ça. On est tous constitués ainsi, globalement. C'est à peu près l'idée. Et du coup, le faux self qui protège, qui permet de rendre inaccessible à certains moments le self du sujet, va permettre de faire en sorte que l'individu fait face à des situations données qui ne sont pas forcément toujours des situations extrêmement agréables dans lesquelles le sujet pourrait y déployer toute sa sensibilité et toute sa vulnérabilité. Partant de là, je crois que la symptomatologie, ou en tout cas le trouble, le trouble du fonctionnement entre celles, réside essentiellement dans un effet d'écrasement du self par ces effets pseudo, par le faux self. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous pourrez trouver ça dans un article qui s'appelle Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux self dans un processus de maturation chez l'enfant. Et du coup, quand même, juste de dire qu'à un moment donné, les fonctionnements pseudo ont quand même une utilité. Je crois que c'est important de le souligner, si ce n'est qu'ils peuvent finir par étouffer le fait de se sentir vivant et créatif. Voilà, on pourrait dire dans les formes plus pathologiques. Alors je résume extrêmement, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller dans une complexification de cette notion-là tout de suite. Hein, mais peut-être d'avoir en tête aussi que le clivage entre le vrai self et le faux self est souvent à l'origine de troubles qui qui pourrait être proche de l'imposture ou de la normopathie. C'est-à-dire où le sujet finit par ne plus pouvoir suffisamment jouer, ne plus avoir suffisamment de latitude avec les aspects de lui qui sont du côté d'une forme d'adaptation et la dimension plus authentique. Je me posais aussi la question de la dimension de la séduction, on pourra peut-être l'évoquer tout à l'heure, l'aspect séduisant qu'effectivement que ces normopathes peuvent avoir, dans le sens où ils représentent quelque chose d'impossible. Ils représentent quelque chose du vivant, non vivant, quelque chose d'une vie sans souffrance. Et en ce sens, une vie sans souffrance, ça nous renvoie aussi aux questions propres à la mélancolie et à celle de la mort. Est-ce qu'on peut réellement, un jour, être exempt et totalement dégager la question de la souffrance? C'est l'illusion dans laquelle erre le normopathe, je crois. Et en ça, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de lui qui est mort. Winnicott dirait que c'est le vrai self qui est mort, mais effectivement, on peut le lire d'un point de vue plus phénoménologique, je pense, en disant qu'il y a quelque chose de l'existence qui est attaqué.
Bon, j'aimerais revenir sur ce que Jean-Baptiste vous a dit de la fonction, finalement, du faux self et du pseudo. Jean-Baptiste disait que c'est la fonction du pseudo, finalement, c'est l'adaptation du sujet, c'est la capacité de survivance. Mais il y a une double fonction, il n'y a pas que celle-ci. Toujours dans le même article qui s'appelle Plaidoyer pour une certaine anormalité, Angus McDougall, elle dit que, disons, au compte de cet être normal, qu'il est le pilier de la société, et que sans lui, la structure sociale serait en péril. Elle continue en disant il ne renversera jamais le royaume, il mourut aussi bien pour la République, son épitaphe, il naquit homme et mourut plombier. En fait, ce qu'elle essaye de dire par là, c'est que. Il faut cette capacité à pouvoir aussi se confondre à la norme, c'est-à-dire appuyer ce que produisent les institutions. Alors, on rentre déjà dans un niveau de complexité de pensée, on dépasse la question du sujet et on commence à penser à la question aussi on parle de la normopathie, mais il faut aussi penser à la question de la production des normes. On sait tous que la société et les institutions qui organisent la société ont tendance à produire un ensemble de normes. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple?
L'exemple paradoxal, effectivement, auquel on pensait en préparant cette intervention, qui est celle du SDF, par exemple, ou du révolutionnaire, qui sont des grands conformistes.
On pourrait penser aussi à la question de la position d'objets sociaux. Par exemple, aujourd'hui, c'est devenu quasiment une norme d'avoir Internet, c'est quasiment devenu une norme d'avoir un téléphone portable. Celui qui aujourd'hui n'a pas de portable est considéré comme un marginal, on va dire. Après, il existe des micro-normes, comme la cravate dans une banque, ou des choses comme ça. Le jeu, c'est pouvoir se conformer aux normes s'il n'y a pas suffisamment de normopathes, on peut imaginer que la structure sociale de notre société, elle pourrait s'effondrer. Et on en revient à une question essentielle que Freud avait évoquée dans Malaise dans la civilisation. Il avait décrit différents types de souffrances. Il y avait une première qui était inhérente à la nature, c'est-à-dire que dans des contextes naturelle extrêmement grave, l'homme peut souffrir. La deuxième forme de souffrance que Freud définissait, c'est la finitude de son être somatique, la précarité de son corps. Et la troisième type de souffrance qui nous intéresse là, c'est que Freud avait émis l'hypothèse qu'il y avait une souffrance très particulière, c'était celle que l'homme puisse souffrir des institutions que lui-même avait créées. Et là, on en revient effectivement sur cette question que Jean-Baptiste avait évoquée vite fait, mais celle, par exemple, des populations SDF. Aujourd'hui, c'est quand même difficile à imaginer que les institutions qui sont censées nous faire bénéficier de bien-être puisse, pour certaines franges de population, produire de la souffrance. C'est toutes ces cliniques de la précarité. On pourra peut-être en prendre un temps tout à l'heure pour en parler. Mais sans prendre l'exemple du SDF, puisque on sait que ces populations-là sont extrêmement homogènes, hein, il n'y a pas que des hétérogènes. Imaginons quelqu'un qui ne soit pas dans la capacité de pouvoir utiliser son potentiel normopathique. Ça peut le mettre en marge, et le mettre dans une souffrance terrible. J'avais émis l'hypothèse qu'il existait des formes d'anti-normopathie. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des populations, ça, je pense qu'on les rencontre un petit peu avec Jean-Baptiste. Moi, c'est plutôt les populations errantes, et Jean-Baptiste plutôt les problématiques adolescentes, mais que certaines populations sont dans une espèce de fuite des normes. Hein. Comme si elles étaient dans une fuite de l'enfermement que peut produire les normes. Hein. Quand Guilhem disait que nommer, c'est normer, aussitôt qu'on produit un nouveau sigle comme celui de SDF, on norme. Hein. Alors McGill disait que le normopathe était peut-être le pilier de la société. Est-ce qu'on peut imaginer que toutes ces populations marginales aussi produisent en négatif quelque chose de l'ordre de la définition par rapport à la marge. Hein, c'est-à-dire qu'une société se définit forcément en s'objectant à un opposé. Hein, on sait avec les sondages Emmaüs qu'aujourd'hui plus de 70% de la population française mais l'angoisse de devenir un jour SDF, voilà. On s'objecte comme ça à un opposé pour, quelque part, produire encore des normes. Alors, SDF, hein, on peut imaginer que c'est aussi une norme aujourd'hui.
On pourrait dire que c'est la marge qui définit l'intérieur, c'est-à-dire ça circonscrit quelque chose aussi du collectif. Dans le fait même de se différencier, tout comme tout à l'heure je disais le révolutionnaire, comme ça sous forme de provocation, mais je pense que le révolutionnaire ou le syndicaliste est en soi quelqu'un de conformiste, hein, dans le sens où il répond à un attendu qui fait que dans toute société, dans toute civilisation, il y a des personnes qui s'opposent à, tout comme on peut considérer que le SDF effectivement s'oppose à consciemment, inconsciemment, et puis donc les choses sont peut-être un petit peu plus complexes, celles de l'opposition, en tout cas s'inscrivent en marge ou en écart du groupe et du collectif, ou de la civilisation. Effectivement, on peut retrouver ces points de repère dans toute organisation sociale, dans toute institution, dans toute collectivité. Et dès lors qu'il y a du commun, il y a de la marge, mais cette marge-là même définit et circonscrit quelque chose de la norme. Et en ce sens, les personnes que l'on peut pointer souvent du doigt comme étant, je dirais, anormales, pourtant nous permettent de, je dirais, de venir définir quelque chose de l'humain. Hein. Quand on peut considérer qu'on pourrait penser la même chose du handicap, hein, des personnes handicapées, en disant qu'elles sont effectivement anormales, et pour autant, c'est effectivement elles, de leur existence même, qui viennent nous permettre de penser ce qu'est l'humanité.
Alors je vois qu'il est 20h, il était temps d'essayer de faire une conclusion, hein, sur ces 2 heures d'intervention. Alors j'espère, moi, à l'issue de tout ça, c'est très intéressant l'université populaire, parce que ça fait partie de sujets imposés sur lesquels on essaie de travailler, et puis on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on travaille un sujet, comme celui-ci, et puis avec les échanges qu'on a pu avoir entre les deux interventions, les choses ne sont pas si claires qu'on aurait pu le penser dès le départ. Alors j'espère que si aujourd'hui vous arrivez, vous, dans quel camp vous placez chez le normopathe ou chez plutôt le marginal.
Je crois que peut-être une des hypothèses qu'on pourrait tenir, c'est que la normopathie, on pourrait penser que c'est notre condition à tous. Après, nous ne sommes pas que ça non plus. Peut-être qu'il faut avoir quelque part un pied dans la normopathie, puis un pied dans la marginalité, et que c'est l'idée d'avoir un pied dans chaque catégorie qui permet aussi de rendre la vie créative. Si par contre on a les deux pieds dans la norme, effectivement on pourrait imaginer qu'on pourrait être effectivement dans nos pattes, et puis les deux pieds dans la marginalité, ben, c'est peut-être les gens qui produisent des normes minoritaires, quoi, des marginaux, des choses comme ça. En tout cas, le danger, ce serait de ne pas jouer le jeu de ce grand écart. Hein. On sait que la vie subjective, elle est aussi une vie la subjectivité se construit dans l'intersubjectivité. Hein. On a essayé de vous montrer ça depuis l'ensemble des cycles de conférences qu'on avait commencé ces années dernières. Et quand on dit intersubjectivité, on pense que on vous a amené souvent le modèle du petit enfant avec ses parents, du bébé avec son environnement. Le sujet est un, on va dire, intersujet. Hein, et que c'est une dimension quand même importante à considérer. On ne peut pas comprendre la subjectivité sans prendre en compte les questions d'intersubjectivité. Alors on s'aperçoit aussi que du côté des imposteurs, on a pu rencontrer des imposteurs normopathes. Hein. Moi, je suis très étonné de l'échange qu'on a pu avoir la semaine dernière. C'est vrai qu'avec Madoff, du coup, on a eu. Ça avait enrichi un petit peu, moi pour ma part, ma réflexion en se disant que. Et vous voyez des imposteurs qui sont normopathes, c'est-à-dire qui sont tolérés socialement et qui font partie, quelque part, comme pilier de notre société. Et je me disais qu'au fond, quelque part, il arborait aussi une certaine forme de potentiel normopathique. Alors, pas de manière générale, mais dans la norme, celle que produisent la jet set. C'est-à-dire que dans l'univers jet set, il était plutôt bien normé, on va dire, ce garçon, puisqu'il en comprenait les tenants et aboutissants.
Oui, je crois qu'il y a quand même ce point commun, enfin ces points communs, il y en a quand même plusieurs entre normopathes et imposteurs qui sont importants quand même à pouvoir souligner. Tout d'abord le fait qu'il s'agit de personnes qui ne se connaissent pas. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que dans l'ensemble des typologies qui peuvent être établies de ces types de personnalités, on s'aperçoit qu'il s'agit d'individus qui ne savent pas où ils existent, ni comment ils existent. C'est-à-dire que dans les personnalités, que ce soit dans les imposteurs, dans les personnalités dites comme si, chez les types de normopathes, globalement, chez les imposteurs, on retrouve cette forme d'identification en collage à l'autre, et fait que du coup l'individu se prend pour une part imaginée de ce que l'autre pourrait attendre de lui. Dans les normopathes, on rencontre à peu près la même chose, sauf que celui, il n'est sans doute pas pris dans les mêmes effets de séduction. Il ne s'agit pas d'un individu, il ne s'agit pas d'une personne, du regard de la mer, on pourrait dire comme ça, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus partagé, communément partagé, qui est l'attendu et le construit social. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du côté du collectif ou de l'attente du groupe, de l'attente de la société, qui fait que ça tend à se conformer. Et je crois qu'il y a vraiment cette première dimension qu'on peut souligner, d'évoquer qu'il s'agit de personnes qui sont en peine à percevoir, à identifier leur propre personnalité. Et un autre point de vue qui est celui de la séduction, que l'on retrouve dans les différents écrits, où on s'aperçoit bien, on l'avait évoqué peut-être plus profondément la dernière fois, que comme quoi les imposteurs sont aux prises avec ces questions du regard de l'autre, de la sécularité, et recherche la reconnaissance
de souvent des personnes qui vont essayer de duper. Et chez le normopathe, il y a une forme de collage, on pourrait dire, à l'autre, hein, et du coup à l'idéal du groupe, là où l'imposteur, c'est plutôt un collage à une forme d'idéal du moi projeté sur l'autre. Du coup, on propose de pouvoir passer peut-être un échange plus direct avec le second temps, là, au niveau des... Voilà, des...